Nous voulons saluer tous ceux, vous tous, là où vous vous trouvez ce matin. Certains, il y a ceux qui écoutent, qui nous écoutent à travers les ondes de Radio Kwesi. Il y a aussi ceux qui sont connectés par d'autres moyens, live stream ou autres moyens. Mais là où vous vous trouvez, nous vous souhaitons la bénédiction du Seigneur. Et que le Seigneur soit avec nous et nous qui sommes réunis et qui écoutons la parole de Dieu. Mais avant de continuer, nous allons demander de fermer nos yeux et de prier ensemble. Notre Père bien-aimé, nous voulons te remercier de nous donner ce jour que tu nous as gardé de nouveau. Et comme nous sommes réunis à nouveau ce matin, nous te demandons que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous. Et nous demandons, Seigneur, que tu nous parles durant ce jour. Et bénis chaque chose qui va être faite comme nous sommes réunis pour cette réunion. Les chants que nous allons entendre afin que cela trouve de la place dans nos cœurs. Et Seigneur, ta parole, qu'elle puisse produire le travail dans nos cœurs et aussi dans les cœurs de tous ceux qui écoutent. S'il te plaît, Seigneur, bénis-nous à travers ta grâce. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce jour. Et également pour ces réunions que nous pouvons avoir. Nous remercions le Seigneur pour les réunions que nous avons déjà entendues, pour les messages. Et nous avons confiance que les réunions qui sont encore devant nous seront une grande bénédiction également. Le thème de ce camp a touché mon cœur. Dieu qui demande l'homme qu'il a créé, Adam, où es-tu? Et peut-être nous aussi, nous nous trouvons en nous ayant déplacés de ce lieu où Dieu nous a placés. Tel que Adam a quitté ce lieu que Dieu lui a donné, peut-être nous aussi, nous avons quitté ce lieu. Il y a une chose que dont moi je sais et qui nous détourne de ce lieu et qui nous enlève de ce lieu, c'est qu'il y a péché qui se vient entre l'homme et Dieu. Et l'homme se détourne et se sépare de Dieu. Si toi, tu apportes ce péché qui te sépare de Dieu, alors tu seras à nouveau un avec Dieu et tu t'approches de Dieu. Et c'est ma prière que Dieu nous parle durant cette réunion ce matin. Ce matin, la famille Shlabati va chanter pour nous. Et après cela, nous allons entendre la parole qui nous est apportée par le docteur Van Ieden. Donc la famille Shlabati va chanter, puis après cela, je ne me lèverai plus. Et c'est mon désir que, comme nous entendrons la parole de Dieu, que chacun d'entre nous crie à Dieu et dit « Seigneur, parle-moi, j'écoute ». Nous allons demander à la famille Shlabati de venir et de chanter. Nous voulons une fois de plus vous souhaiter la bienvenue ce matin, comme vous avez entendu cette réunion qui est émis par les ondes de la mission Kwasi Zabantu. Chers amis, ceci est un temps où nous tous avons besoin du Seigneur. Si nous regardons à ce qui se passe dans le monde entier, si nous regardons à ce qui se passe à l'extérieur de l'Église, si nous regardons à ce qui se passe dans l'Église, nous réalisons que c'est un temps inhabituel, un temps que nous n'avons jamais expérimenté auparavant. Ces jours-ci, j'ai pensé être un parent concernant la structure familiale et j'ai réfléchi sur se marier. Cela m'a touché ce que Pasteur Stegen a dit hier soir dans son message. Quand il a expliqué le mariage et ce qu'est le mariage entre un mari, un homme et une femme, quand il a dit que c'est quelque chose qui a été institué par Dieu, même avant la chute de l'homme, ce n'est pas quelque chose que Dieu a permis une fois qu'Adam et Ève ont mordu, pour ainsi dire, la pomme, qui dit qu'il est bêtise, on ne connaît pas en fait le fruit. C'est quelque chose qui a été inventé, la pomme. Non, c'est quelque chose qui a été mis en place par Dieu et que cela doit être maintenu, vécu et gardé comme une institution, quelque chose qui a été créé et fait par Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, « Ne prends pas et donne aux chiens ce qui est saint. » Cela, tu trouves dans Matthieu 7, verset 6. Ne donne pas aux chiens ce qui est saint. Ne jette pas tes perles vers les chiens, à moins qu'ils ne les piétinent sous leurs pieds, qu'ils se tournent contre toi et qu'ils t'attaquent. Est-ce que cela n'est-il pas ce que toi et moi avons témoigné pour de nombreuses années déjà concernant le mariage? Chaque personne veut se marier. Chacun veut se marier. Même si le mariage ne tient que 2 ans, c'est bien, ils veulent se marier. Et ils ne réalisent pas qu'ils prennent ce que Dieu a donné à son Église comme une perle. C'est une perle que Dieu a donnée à son Église. Et sais-tu quoi? Savez-vous ce qu'ils font du mariage? Ils font de ce mariage, quelque chose qui n'est pas bon, ils le piétinent sous leurs pieds, mariage devient un monstre, où l'un attaque l'autre et les enfants grandissent comme des enfants sauvages, remplis de péché et sans Dieu. Alors le Seigneur a dit une chose intéressante. Il a dit, ils vont se tourner et t'attaquer. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer? Si tu propages, si tu promotionnes un mariage selon Dieu, tu te fais attaquer de tous les côtés. Si tu dis que le mariage ne devrait pas être quelque chose que tu fais de toi-même, de tes émotions et de charnel, c'est quelque chose qui doit être fait dans l'obéissance de Dieu, si Dieu te dit de le faire. Il se tourne et il te traite comme si toi tu es devenu un ennemi de Dieu et un ennemi de l'Église. Et ils vont plus loin même. Ils disent, si tu veux garder le mariage comme une institution entre un mari et une femme, tu fais une discrimination contre les autres. Tu discrimines contre ceux qui se sentent qu'un homme peut marier un autre homme ou une femme peut marier une autre femme. Ami, ne joue pas avec une institution placée établi par Dieu et pense que cela va être une bénédiction pour toi. Si ta relation avec Dieu n'est pas en règle et si tu ne le fais pas en obéissance selon un commandement de Dieu. Et parce que le mariage est une institution céleste, une institution selon Dieu. Si un enfant de Dieu se marie de la bonne manière, si on peut l'appeler ainsi, selon le commandement de Dieu, tu dois continuer avec ton mariage jour après jour dans l'esprit, dans les voies de Dieu. Ce n'est pas simplement se marier selon les voies de Dieu, mais c'est vivre la vie maritale, la vie mari et femme, jour après jour. Et sais-tu quoi? Cela va demander de toi de mourir à tes désirs charnels et mourir à tes désirs, à tes souhaits charnels. S'il te plaît, je ne veux pas créer l'impression que mariage est une chose terrible, où tu meurs à toi-même et c'est simplement un défi et quelque chose qui n'est pas un plaisir ou qui n'est pas une bonne expérience. Non, ce n'est pas cet esprit ou cet aspect que je veux créer, pas du tout. Non, comme tu le vis jour après jour, tu es béni. Cela te nourrit et t'encourage et te bénit. Mais tout de même, chaque jour, probablement ou très souvent, afin de garder la sainteté dans ton mariage, tu dois le faire, tu dois marcher dans l'esprit et mourir à tes voies charnelles et à ta manière de faire les choses. Hier, j'ai trouvé une histoire après l'histoire de la tasse et de la soucoupe que nous avons entendue de l'épouse de Madame K. Stegen. Et je voudrais vous lire cette histoire. Autrement, le mariage semble être une surprise pour vous. Il y avait un couple qui aimait collectionner des tasses de thé. Et ainsi, ils célébraient leur 25e anniversaire de mariage. Ils sont allés en vacances en Angleterre. Et ils ont décidé d'acheter une belle tasse avec sa soucoupe, une tasse de thé pour célébrer leur anniversaire pour en tant que souvenir de leur 25e anniversaire de mariage. Et ils ont trouvé une très très belle tasse avec la soucoupe. Et comme ils l'ont pris de l'étagère pour contempler cette tasse, la tasse a commencé à leur parler. Et de plus la tasse leur a parlé, de plus en plus ils ont réalisé, oh, la tasse a un message pour notre 25e anniversaire de mariage. Et c'est une leçon et un message pour moi, pour nous, pour le restant de notre vie. La tasse leur a parlé, a dit, « Je n'ai pas toujours été une tasse de thé. Et a dit, « J'étais rouge ou j'étais le sol. » Est-ce que ce n'est pas ainsi que beaucoup d'entre nous entrent dans le mariage? Je suis du sol, de l'argile. Et dit, puis le maître m'a pris. Le potier. Nous avons entendu hier que c'est le potier qui peut, que le potier qui peut guérir les crevasses et ce qui est ébréché dans la tasse et dans la soucoupe. Et il dit, le potier m'a pris et il m'a roulé, il a fait une boule et il m'a toujours à nouveau, il me, d'une main à l'autre, jusqu'à ce que j'étais mou, jusqu'à ce que cette terre, cette argile était mou. Quand tu te maries, Dieu t'enseigne à être mou dans ses mains et il t'apprend à te soumettre à ce qu'il t'enseigne dans la vie de mariage. Et la coupe, la tasse a dit, puis il m'a mis sur spinning wheel, sur sa machine, et il m'a fait tourner. Et j'ai hurlé et j'ai dit, oh, je suis... ça me tourne dans la tête. Oh, je ne sais pas si je pars ou si je viens. Ami, dans la vie de mariage, quand tu as des enfants et que les enfants grandissent, il y a des temps où cela te sent que comme si ta tête tourne constamment et tu ne sais pas vraiment si tu es Arthur ou Martha ou si tu es qui tu es. Avec tous les défis que les enfants apportent, les questions qu'ils apportent, et tu dois prendre, faire la bonne décision, apporter la bonne réponse et chercher la face de Dieu. Il a dit, mais ce n'est pas tout. Puis il m'a placé dans le four. Il a dit, je n'ai jamais... sans ressentir une telle chaleur. Oui, ami, toi, tu peux être exposé à la chaleur extrême dans ta vie maritale. Mais le potier a un but pour cela. Et dans cette chaleur, toi et moi devons entendre la voix du potier, ce qu'il expecte, ce qu'il attend de moi. Et la tasse a hurlé et dit, arrête cela. Mais la tasse a dit, j'ai regardé aux lèvres du potier. Et il a secoué sa tête. Il a dit à la tasse, non, pas encore. Il dit, puis il a pris la tasse, l'a placée dans un four de nouveau. Il a dit, je me demandais pourquoi est-ce qu'il voulait me brûler. Ami, il y a des endroits et des situations dans la vie de mariage aujourd'hui où il y a cette chaleur et le danger peut être là que nous brûlons. Il y a des législations qui sont passées, qui te disent à toi et qui ont été placées et mises dans notre pays qu'un parent n'a pas le droit de physiquement punir, n'a plus le droit d'appliquer la punition corporelle sur un enfant. Donc ça, c'est ce que la loi humaine nous dit. Et les assistantes sociales peuvent venir et contrôler un couple qui fait cela. Et toi, en tant que parent, dois trouver qu'est-ce que veut Dieu que je dise et que me dit la parole de Dieu. Comment dois-je réprimander mon enfant et corriger mon enfant? Tout cela fait partie de se marier, du paquet dans le mariage. Et souviens-toi, à l'extérieur, là-bas, il y a des chiens et des pourceaux qui ont trébuché sur cette perle et qui veulent te dire comment toi tu dois agir avec ta perle. et comment vivre avec ta perle. Puis le potier m'a mis sur une étagère et j'ai commencé à tiédir. Et j'ai pensé, oh, cela va mieux maintenant. Puis il a commencé à me brosser. Et les fumes qui sortaient, les odeurs qui sortaient étaient terribles. Puis il m'a remis dans le fourneau. Et cette fois-ci, c'était deux fois plus chaud que la première fois. Je vais parler de cela plus tard dans la réunion, amis. Mais si un membre du mariage, soit le mari, soit la femme, se trouve dans une situation difficile, il y a une responsabilité pour le prochain, pour le mari ou pour la femme, pour soutenir celui qui se trouve dans la chaleur. Et la tasse a dit, il a commencé à supplier, crier. Mais il a regardé à travers la vitre du fourneau. Et il a vu le potier secouer sa tête, disant « Non, ce n'est pas encore suffisant. » Oh, chers amis, chère mère, cher père, est-ce que tu as les temps où tu peux regarder à travers la vitre et regarde ce que l'idée du potier à travers ce que toi tu expérimentes? Ceci de voir le visage du potier, de savoir qu'il est avec moi, transforme les situations les plus difficiles ici sur terre en éternité et les transforme en beauté. Puis, il a ouvert le fourneau, la porte du four, et il a commencé à peindre la tasse. Ceci est pourquoi, si un mariage est un mariage selon Dieu, les années après les années, le plus longtemps cela dure, le plus doux cela devient, le plus merveilleux cela devient, et de plus en plus cela devient un témoignage de la gloire de Dieu, ce que Dieu, l'intention de Dieu, de ce que représente un mariage. Et finalement, le potier avait fini son travail. Le potier a dit, « Si je n'avais pas fait tout cela, tu n'aurais pas être devenu dur, suffisamment dur pour pouvoir tenir dans toutes les tribulations et dans toutes les situations. Ô ami, que Dieu te fasse grâce à toi et à moi. » Mais il y a des choses, comme je l'ai déjà dit, qui vont entrer et essayer de transformer ton mariage du ciel en un enfer. Donc, lisons deux passages dans la Bible où cette question est, où, d'où vient ce passage, où cette question, Adam, où te trouves-tu, où es-tu? Genèse 3, verset 6. La femme qui vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Et nous savons qu'à partir de là, ils se sont cachés de la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu soit venu et les a appelés et a posé cette question où il a appelé, il a dit: Adam, où es-tu? Est-ce que tu sais comment cela me bénit? Ici sont ces gens qui sont méchants, têtus, péchés, et ils se cachent avec leur cœur. Méchant, sale, il se cache de la face, devant la face de Dieu. Ces deux personnes, Adam et Ève. Et ici vient le Créateur du ciel et de la terre courir derrière eux, si je peux le nommer et le dire avec tout respect, comme un petit chien qui les suit. C'est eux qui auraient dû courir vers Dieu, mais c'est lui qui vient et court vers eux. Il connaît toutes choses. Il sait ce qu'ils ont fait. Il sait la solution à leurs problèmes. Et ici, il vient au jardin, dans le jardin, dans sa manière humble et douce. Il dit: Adam, où es-tu? Dieu, pourquoi dois-tu t'humilier toi-même de cette manière? Qui suis-je, personne en têtue, un pécheur, que toi tu viennes vers moi et me demandes: Adam, où es-tu? Est-ce que tu réalises ce qui se passe ces jours-ci? Ceux d'entre vous qui ont écouté ces réunions, chaque sermon, chaque réunion, tu as entendu le Créateur humble, le Créateur céleste qui courait derrière toi, là où tu te trouves dans ton péché et te demande: où es-tu? Adam, où es-tu? Oh, quel Dieu! Et s'ils l'avaient connu, ils auraient réalisé, ils auraient couru vers lui et ils auraient dit: oh Dieu, nous sommes nus, nous avons fait une bêtise, nous avons besoin de nous dire comment nous sortir de cette situation. Mais ils ont essayé de cacher. Moi, je veux... Nous lisons que quand ils ont mangé du fruit, ils ont su ou réalisé qu'ils étaient nus. C'est pourquoi Adam se cachait. Moi, je voudrais parler plus aujourd'hui, être nu. Qu'est-ce que cela signifie que d'être nu? Je vais commencer avec Ève, parce que Ève également était nue. Permettez-moi de vous donner trois exemples. La nudité d'Ève. Cela vient d'une recherche qui a été faite par un journaliste mondain. Elle voulait faire une expérience et elle voulait trouver pourquoi est-ce que l'homme va et a des affaires avec d'autres femmes si les femmes sont mariées. Elle était tellement surprise. Donc, elle a fait une réclame d'elle-même sur un site d'Internet où tu peux te connecter, où tu peux faire une réclame pour tu cherches à avoir une affaire avec quelqu'un, avec un homme ou une femme. Il y a des milliers de ces choses sur Internet. Des lieux terribles, des lieux sur les sites qui viennent de l'enfer où les gens qui sont mariés veulent commencer une affaire avec une autre personne. Un tel site d'Internet est une place où les pourceaux et les cochons vont et qu'ils ont piétiné sur la perle, cette perle que Dieu leur a une fois donnée. Mais il la piétine. Donc, elle a changé son nom et elle a fait la réclame sur Internet qu'elle était disponible pour une affaire. Simplement pour trouver pourquoi est-ce que les hommes commencent à avoir une affaire avec une femme mariée. Et elle a dit qu'elle était choquée quand elle a entendu la raison des hommes. Pour quelle raison ils cherchent une autre femme? Elle pensait que tous les hommes voulaient avoir une affaire parce qu'ils étaient remplis de convoitises et qu'ils voulaient avoir que des relations sexuelles avec d'autres femmes et dormir avec d'autres femmes. Mais elle a dit que quand elle a entendu leur raison, elle avait du mal à le croire. Donc, le premier homme l'a contactée. Son nom était Robert, 39 ans. Il voulait la rencontrer un soir et elle a dit « Oh, je veux d'abord apprendre à te connaître. Est-ce qu'on peut se rencontrer dans un restaurant ou dans un café, une cafétéria quelque part ?» Donc, quand elle a rencontré Robert, elle lui a dit, « Dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux avoir une affaire ? Quelle est ta raison pour avoir une affaire ?» Robert lui a dit, « Sais-tu, j'étais mariée 4 ans déjà. » Et il a dit, « Chaque chose a changé quand les enfants sont venus. » la relation entre moi et ma femme a complètement changé. Parce que la seule chose que ma femme était préoccupée, ce sont les enfants. Moi, je n'étais plus rien. Elle ne se souciait plus vraiment de moi. Elle voulait simplement être préoccupée avec les enfants nuit et jour. Dis-moi, ami, je sais que ceci est un homme mondain qui ne connaît pas Dieu. En plus de cela, elle n'aurait même pas dû considérer aller vers une autre femme. Il aurait dû aller vers le potier. Mais dis-moi, Ève, vous, les Èves, est-ce que vous n'avez peut-être pas fait cela à vos maris? Que le respect, l'amour, l'adoration que tu avais l'habitude d'avoir pour ton mari a disparu quand tu as eu des enfants et tu es préoccupée avec tes enfants. Il n'est pas allé parce qu'il voulait avoir une relation sexuelle avec la femme. Il a cherché parce qu'il voulait développer une relation avec une femme qui, une fois de plus, le respecte et l'aime. Le prochain homme était Brian, 46 ans. Il travaillait dans une entreprise de construction. Il a dit, j'ai commencé à réaliser, pendant que je me trouvais dans ma vie de mariage, qu'il y a bien plus à jouir ou il y a quelque chose de plus à être heureux dans la vie. Il a dit, la vie n'a pas besoin d'être misérable et terrible. Parce qu'il a dit, ma femme est si souvent dépressive, découragée, elle n'a pas le moral. Ami, est-ce que je ne vous ai pas dit que c'est une institution qui a été placée selon Dieu et tu dois mourir à tes désirs et tes sentiments si tu veux que ton mariage soit un succès. Il a dit, si nous aurions le meilleur vacances que nous pouvons penser, mais elle va toujours trouver quelque chose à se soucier. Elle dit, la vie est si difficile et c'est tout ce qu'elle peut dire. Elle dit, les enfants sont un fardeau et un problème pour moi. Mais elle a dit, ils ne sont pas, ils sont une joie pour moi. Il a dit, Dieu nous a donné des enfants merveilleux. Il a dit, moi, je veux m'asseoir et avoir une conversation normale avec elle et lui parler sur les choses qui se passent durant la journée. Mais quand j'essaye de le faire, il y a quelque chose qui nous cause à argumenter, des choses stupides qu'on ne devrait même pas argumenter, des points sur lesquels nous ne devrions pas argumenter, mais nous nous disputons. il a dit, je ne peux plus le prendre. Je réalise qu'il doit y avoir quelque chose de bien plus pour moi là-bas à l'extérieur que de vivre avec cette femme jour après jour. Laissez-moi parler du dernier exemple pour Ève. Ne vous soutiez pas, j'arrive à Adam. Le dernier est Jacques ou James, il a 52 ans. Il a commencé son travail ou son entreprise sur Internet. Il a dit, ma femme n'est pas stupide, mais elle ne veut pas me parler de choses intéressantes. Il a dit, elle n'est pas intéressée dans mon travail. Elle ne se soucie pas de mon travail. Cela n'a pas d'importance pour elle. Il dit, elle passe des heures sur YouTube, regarder des vidéos sur YouTube. Écoutez, ami, que tu sois un Adam ou une Ève dans ton mariage, YouTube peut être une malédiction dans ton mariage. Cela peut devenir une deuxième télévision parce que tu passes autant de temps regarder des vidéos sur YouTube comme si tu avais passé ton temps devant une télé. Même s'il c'est des films innocents, mais au lieu d'être intéressé dans ton travail, dans ton mari, ce qu'il fait, toi, tu passes plutôt du temps devant YouTube. Il a dit, et la dernière chose, elle regarde la télé, tous ces chanteurs, ces opéras. Tous ces opéras, et je les haïs, je ne peux pas les supporter, mais elle ne peut pas en louper un. Ami, je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutent ne connaissent pas la mission. Vous n'avez jamais peut-être assisté à une réunion ici dans notre auditorium, mais est-ce que ces choses n'ont-ils pas été dans ton mariage là-bas à l'extérieur, là où tu te trouves? Regarder tes films qui continuent et qui ne s'arrêtent pas. Ces épisodes qui ne prennent pas de fin. Je ne connais pas les Zoulous. J'ai que entendu Seven Delan et cela continue déjà des siècles. Je ne sais pas quand cela va s'arrêter. Donc ce sont des épisodes de films. Ceci, chères sœurs, sont des signes d'être nu. Montre ta nudité. Tu n'es pas vêtu dans la justice de Dieu et dans les bénédictions de Dieu. Et toi, peut-être, tu vas et tu parles avec tes amis sur ton mari. qui a une affaire avec une autre femme et qui n'est pas pour toi, qui n'est pas avec toi. Et tu ne réalises pas que Dieu est assis dans le ciel. Et Dieu te dit, toi, tu piétines sur la perle que je t'ai donnée à travers le mariage. Tu piétines sur cette perle tous les jours. Permettez-moi d'aller vers un autre homme qui était identique à Adam. Et sa nudité l'a aussi placé dans des situations difficiles. Il avait beaucoup en commun avec Adam. Son nom était Noé ou Noé. Noé et Adam étaient les deux des pères de la population. Toute la population dans le monde était la source d'Adam et de Noé. Les deux hommes ont marché avec Dieu. Les deux ont obtenu la révélation de la part de Dieu. Tous les deux ont péché. Les deux ont été nus et ont été mis en honte. Les deux étaient fermiers. Les deux avaient des fils justes et injustes. Le fils juste d'Adam, à travers lequel le Messie est né plus tard, était Seth. Et le fils juste de Noé, à travers qui le Messie allait venir, était Shem. Les deux avaient des fils injustes qui ont tenté la justice ou le juste. Et ces fils injustes ont commencé des familles qui n'étaient pas de Dieu et qui étaient remplies de violence. Donc, allons vers Noé, regardons Noé dans Genèse chapitre 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvra au milieu de sa tente. Shem, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le prirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il lui dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Ici, nous lisons de l'acte honteux de Noé. Nous ne savons pas pourquoi Noé a bu le bain et s'est enivré. Peut-être il n'a pas vraiment réalisé ce qui va lui arriver. Mais une chose je peux dire de Noé, il n'a pas bu avant cet incident. Et il n'a jamais à nouveau bu après cet incident. Jamais avant et jamais après. Est arrivé une fois et il a appris sa leçon. Ici était un homme et sa famille a sauvé le monde. Est-ce que tu sais ce que la famille, une famille selon Dieu, est quelque chose à travers lequel Dieu peut vaincre le monde? Quand Dieu a dit à Noé de construire la tente, il n'a pas dit « donne, ah, prends les ingénieurs, les spécialistes, ceci, cela ». Il lui a seulement dit « utilise ta famille ». C'était les seuls qui devaient construire l'arche, qui a sauvé le monde. La famille est un outil puissant dans les mains de Dieu. C'est quelque chose que Dieu peut écouter et utiliser. Écoutez cela, écoutez, pour transformer, changer le monde. C'est étonnant l'extension, ce qui est arrivé dans la famille de Noé a transformé le monde pour toujours après cela. Et comme Adam, Noé a exposé sa nudité. Devant ses fils. Cher frère, cher père, cher Adam. N'as-tu pas exposé ta nudité devant ta famille? Tout d'abord, ta vraie nudité. Sais-tu ce que les statistiques médicales nous enseignent ou nous disent? Depuis que l'épidémie de COVID-19 a commencé, l'inceste, le sexe dans la famille ont explosé. Cela a doublé de ce que cela a été. Frères, devant des sœurs, pères, devant les enfants, les oncles avec des enfants, cela prend une ampleur terrible. C'est une chose honteuse. Moi, je ne veux pas en parler dans le public. Mais parce que toi, tu le fais, permettez-moi de l'exposer pour ce qui se passe dans nos maisons à l'extérieur là-bas. Écoutez à ce que Dieu dit concernant la nudité. Et tu n'as pas besoin d'aller, si tu cherches, cela prend beaucoup de temps. Écoute. Lévitique 18, verset Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 9 dit, « Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. » Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Donc, tu exposes ton péché doublement si tu exposes ta nudité à l'égard d'un de tes petits-enfants. Verset 12, « Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. » Verset 15, « Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. » Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Amis, ceci est ce qui se passe. Et c'est étonnant que Dieu le savait parce qu'il le mentionne point par point. Je n'ai même pas tout lu, c'est trop embarrassant à vous lire. Adam se cachait quand il a réalisé qu'il était nu. Mais toi, tu vas et tu te promets, mais tu exposes ta nudité, honte sur toi. Tu devrais avoir honte et te cacher. Nous, en tant que médecins, examinons des petits-enfants et ils ont des maladies vénérielles. Moi, j'ai vu des bébés, 9 mois, 10 mois, 1 an, avec une maladie vénérielle. Pas étonnant ce que nous disent les statistiques concernant l'Afrique du Sud. En 1 an, un Sud-Africain sur 2 va avoir une relation sexuelle à l'extérieur de son mariage. Nous sommes obsédés avec la nudité. Nous sommes obsédés avec voir la nudité des autres. Que se passe-t-il dans ta tête, cher ami? Est-ce que tu n'es pas préoccupé dans tes pensées avec la nudité d'autres personnes? Alors cours vers Dieu et demande-lui qu'il te fasse grâce. Il est venu dans son humilité, dans sa patience ces jours-ci. Il te dit, Adam, où es-tu? Quel est le résultat de cette immoralité? verset 27. Car tous ces gens qui étaient dans ce monde sont devenus un peuple impur. Est-ce que le pays n'est-il pas devenu? Verset 27, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui y étaient avant nous. Car tous ceux qui commettent quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Nous lisons cela dans Lévitique 18, à partir du verset 27. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amis, soyez prudents. Si toi, tu es un enfant, ne pense pas que tu peux te moquer sur ton père qui était saoul, enivré, comme Shem s'est moqué de son père. Je n'ai pas le temps, donc je vais sauter un certain nombre de choses et je vais vous montrer ce qui se passe en Afrique du Sud. Et j'ai 6 minutes pour cela. À cause de la vie que toi et moi avons vécue, Dieu nous a permis et nous a donné entre les mains d'une nouvelle législation. Le D1 ont soumis des législations au Parlement afin que cela puisse devenir une loi. Donc, c'est un parti politique. Et ça, c'est ce que chaque enfant peut choisir s'il veut un garçon ou une fille. Et toi ou moi ou un professeur, un pasteur ou quiconque ne peut pas l'empêcher, alors tu intimides et tu vas contre l'enfant. Tu fais une discrimination contre cet enfant si tu empêches l'enfant de choisir ce qu'il veut être. Donc, ils encouragent les enfants à décider, veux-tu être un garçon ou une fille? Donc, nous devons avoir dans nos écoles des toilettes qui peuvent être utilisées que des garçons. Donc, si une fille, elle pense qu'elle est une lesbienne et elle pense qu'elle est un garçon, donc il faut qu'il y ait des toilettes pour un tel gendre ou une telle personne. Donc, ils encouragent ces enfants à commencer et à aller vers les médecins. Réfléchissez. Un enfant peut décider sans les parents. Aller vers un médecin, dire, prends mes poitrines, enlève mes poitrines parce que je veux être un garçon. Coupe mes poitrines. Ou un garçon va vers un médecin et dit, coupe ce qui est devant moi et construis-moi des poitrines, des seins parce que je veux être une fille. Et de tels enfants peuvent aller dans n'importe quel WC, dans les toilettes, et tu ne peux pas les empêcher, tu ne peux pas les arrêter. Et ils reçoivent des piqûres, les filles reçoivent des piqûres qui leur donnent une barbe. qui fait pousser des barbes. Les garçons reçoivent des piqûres qui fait disparaître la barbe. Ils doivent recevoir des transfusions sanguines pour le restant de leur vie. Certains des enfants en Europe qui ont fait et disent « J'ai fait une chose folle et je ne peux pas le retourner, je ne peux plus le changer. » J'ai des statistiques de magazines médicaux ou des journaux médicaux. De l'association des homosexuels et des lesbiennes. Savez-vous ce qu'un psychiatrique en Amérique, ce qu'un psychiatre a dit en Amérique? Il a aidé beaucoup de ses filles et garçons de changer et de recevoir, d'être opérés. Et il a dit, stop, stop, je ne le fais plus, plus jamais je ne le fais. Parce que les résultats sont terribles. Ces jeunes se suicident 20 fois de plus que ce qui était normal. Ils deviennent des drogués. Ce sont les gens les plus misérables qui puissent exister dans le monde. Laissez-moi vous lire un exemple ou des exemples de rapports dans les journaux où ils ont fait cela dans d'autres pays. Et je veux conclure avec cela. Souvenez-vous, je vous le lis, mais la législation a déjà été soumise au Parlement. Un professeur qui a fait face avec la pornographie pour enfants parce qu'il filmait les enfants dans les salles de bain, il a dit « j'ai une fille ». Donc il est allé dans la salle de bain des filles et il a pris des photos des filles. Ils ont dit « un homme qui dit qui est une fille peut se joindre avec les filles, peut se joindre aux filles dans les activités sportives et l'inverse. Si une fille dit qu'elle est un homme, elle peut aller chez les hommes. Un professeur en Amérique a refusé de regarder une fille de 5 ans qui prenait sa douche dans les douches des hommes et ils ont posé une charge contre lui parce qu'il refusait de regarder la fille qui se douchait chez les garçons. Un homme habillé comme une femme secrètement a fait des vidéos des filles qui utilisaient les salles de bain. Un homme a proclamé qu'il était une femme et il était dans un logis avec d'autres femmes et il les a violées. Un autre homme est allé dans les salles de bain des filles à l'école et il s'est déshabillé complètement devant les filles parce qu'il a dit « maintenant je suis une fille, je sens que je suis une fille ». Un garçon avec 14 ans proclamant qu'il est une fille est allé dans les toilettes des filles et savez-vous ce qu'il a fait? Il a pris des vidéos d'une jeune fille de 13 ans qui était qui n'avait pas de, qui était nu, il a envoyé cette vidéo à tous ses amis. Amis, est-ce que vous pensez que cela est fou? C'est fou, c'est de la folie. Comment un homme peut-il, avec son cerveau normal, penser une telle chose? Mais ça, c'est ce que la législation a été présentée en Afrique du Sud, dans les écoles. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas parce que nous, nous avons vécu la vie de débauche que nous avons vécue déjà dans nos familles? Il y avait un jeune homme, son nom était Johnny, sa sœur était Marie, ils avaient la même maladie. Il était rapidement guéri de la maladie. Puis 2 ans plus tard, sa sœur a eu la même maladie. Et ils ont dit au garçon, le seul espoir pour ta sœur, c'est que tu dois donner le sang à ta sœur. Et quand le médecin lui a dit cela, sa lèvre tremblait. Puis il a dit, « Ok, je vais donner mon sang à ma sœur. » Les médecins les ont emmenés dans la pièce et ils ont commencé à prendre son sang. Il a vu le sang sortir de lui à travers un tube dans une bouteille pour sauver la vie de sa fille, de sa sœur. Et quand il avait fini à donner son sang, il a regardé le médecin. Il a dit, « Docteur, maintenant, quand est-ce que je vais mourir ?» Puis le médecin a compris. Il pensait qu'il doit mourir afin de donner le sang pour la vie de sa sœur. Mais à travers son sang, il a sauvé sa sœur. Si toi, tu entends dans la situation dans laquelle se trouvent nos mariages, est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous? Oui, il y a de l'espoir. Parce qu'il y a un garçon, et je le dis avec respect, qui a donné son sang pour te sauver, toi et moi, de notre péché. Il est appelé le Fils de Dieu. Il est appelé l'agneau de Dieu. Il n'était pas le bouc de Dieu, mais l'agneau de Dieu. Il a dû décider pour donner son sang afin de sauver notre vie. Et pour sauver nos âmes. Ami, si Dieu t'appelle aujourd'hui, et s'il te dit, Adam, où es-tu? C'est avec un but. C'est parce qu'il veut t'apporter le médicament qui peut te guérir. Oh, que nous n'ignorons pas cette offre de la part de Dieu. Son Fils unique, il n'a pas pu le porter non plus. Il a plaidé, il a dit, « Oh Dieu, que cette coupe passe à côté de moi. Il était crucifié. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ceci était pour sortir toute cette souillure, toute cette saleté de notre cœur. Que nous puissions voir cela. Merci. J'ai confiance de tout mon cœur que Dieu a parlé et que cela est suffisant. Et j'ai confiance que Dieu t'a parlé, a parlé à ton cœur également. Et si Dieu t'a parlé, que supposons-nous faire? S'il y a quelque chose qui me fait cacher de la part de Dieu, je dois le mettre en règle avec Dieu. Que Dieu nous aide. Et je voudrais simplement vous rappeler, si vous avez un besoin de parler avec quelqu'un, parce que tu as un besoin, vous pouvez téléphoner les numéros à Radio Kwesi et également à la réception de la mission Kwasi Zabantu. Afin que tu te sépares de ce fardeau qui te sépare de la part de Dieu. Donc, nous allons demander à Tit Mariusen de venir et de conclure dans la prière. Prions. Seigneur, c'est merveilleux que d'entendre la vérité, parce que la vérité nous rend libres. Et nous prions, nous te demandons que ces paroles que nous avons entendues ce matin, la vérité que nous avons entendue, et qu'elle fasse son travail dans nos cœurs. Nous l'avons accepté. Seigneur, nous ne voulons pas être comme Adam quand nous voyons que les choses ne vont pas bien, que nous nous cachons, mais que nous venons à toi. Et celui qui écoute, qu'il aussi vienne vers toi dans cette heure. Et là où tu frappes aux portes des cœurs, que tu ne te caches pas. Ô Seigneur, aide-nous tel que nous continuons avec cette journée et préparons pour les réunions à 15 heures, que tu sois avec nous. Amen.